Je le disais à l'instant, Paul, tu as daigné revenir en studio et un retour sur les chapeaux de roue puisque tu as suivi aujourd'hui la mobilisation des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur lors de la manifestation qui avait lieu en fin de matinée.
Exactement, vous me manquiez beaucoup. Et à 11h ce matin, place de la République, enseignants, AED, AESH et plus généralement personnel de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur étaient présents pour exprimer leur colère face à l'inaction du gouvernement et les promesses non tenues. À l'appel de 6 fédérations syndicales, le quelques milliers de manifestants présents dans le cortège s'est dirigé vers l'inspection académique d'Ille-et-Vilaine. Blanquer dans le viseur, les manifestants réclamaient une amélioration des conditions de travail, une meilleure gestion de la crise sanitaire et une revalorisation de leur salaire gelé depuis 10 ans. Sur place, j'ai rencontré un enseignant de l'université Rennes 2 qui m'a expliqué la situation intenable dans laquelle le gouvernement maintenait étudiants et personnel enseignant.
Samuel Lepuissant, je suis professeur de PS au SUAPS de Rennes à l'université.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap actuellement rémunérés 740 euros net pour 24 heures de travail par semaine, c'est pas digne.
Voilà, l'essentiel actuellement dans l'urgence c'est de décider de réouvrir les universités mais avec des conditions complètement dégradées. C'est-à-dire que c'est un affichage, on va dire, 20% de licences, de master va rentrer pour faire leurs cours. C'est intenable, c'est une usine à gaz. Je pense que c'est juste un affichage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de moyens qui ont été attribués en termes de profs pour dédoubler des cours. Donc là, c'est juste de l'affichage de nos ministères.
Pour l'instant, Frédéric Vidal, elle avait juste donné comme information que les premières années pouvaient revenir un jour par semaine seulement. Vous êtes dans une filière sportive, comment ça se passe du coup les cours, étant donné qu'il n'y a plus de présentiel?
Alors il n'y a plus de présentiel, sauf pour une autorisation spécifique au STAPS de faire les pratiques physiques sous forme de TP, donc c'est un TP, avec une demi-jauge. Voilà.
Et du coup les cours sont quand même réduits, il y a moins d'heures, comment ça se passe à peu près dans le détail?
Ah bah oui, enfin, en présentiel il y a quasiment plus d'heures. Et pour les étudiants c'est un vrai souci de pouvoir à la fois avoir les moyens de suivre du distanciel, donc avec du matériel adapté, c'est souvent chez leurs parents, avec une connexion qui va vite et ainsi de suite. Et puis de venir sur Rennes pour suivre un dixième à vingtième de leur emploi du temps qui est en présentiel. C'est très compliqué à gérer ça. Nous, on a refait du présentiel depuis hier, alors que ça faisait 4 mois qu'on n'avait pas vu les étudiants. On sent une envie de revenir extrême. Voilà. Et on a tout de suite vu dès le départ, avec les visios, une perte régulière de l'adhésion au visio. C'est-à-dire que le nombre d'élèves, d'étudiants qui étaient devant a diminué en permanence.
C'est quoi les mesures pour vous que le gouvernement devrait prendre en urgence?
C'est clairement des moyens humains pour pouvoir encadrer. C'est-à-dire si on divise les groupes, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait trop de monde, trop de brassage, on divise les groupes, il faut donc des gens pour les encadrer. Parce que moi, je ne vais pas doubler mon emploi du temps, je ne vais pas être payé en heures sup deux fois l'emploi du temps, et je ne peux pas le faire. Donc il faut des intervenants, des contractuels pour l'instant, et puis un plan de recrutement pour des années qui viennent, quoi, parce qu'on ne va pas pouvoir rester dans cette situation-là.
Outre quelques enseignants du supérieur, la mobilisation était davantage centrée sur le primaire et le secondaire. Les 6 syndicats à l'origine de la manifestation ont également lancé un appel à la grève. Et selon un sondage Ipsos pour la FSU dévoilé le 1er décembre, 77% des enseignants et 52% des non-enseignants pensent que leurs attentes ne seront pas prises en compte par le ministre. Quelques 68% des enseignants estiment d'ailleurs que les réformes entreprises depuis 3 ans vont dans le mauvais sens. Dans le cortège, j'ai rencontré un professeur de lycée professionnel qui m'a expliqué son mécontentement face à la faiblesse des décisions de l'exécutif.
Et ensuite vous inscrivez autour de chant, surtout la jeunesse, parce que la jeunesse a besoin de chanter, non? Ouais.
Et la vieille, on va faire une intervention de la part du...
Je suis Ronan Wallick, je suis au SNU FFSU. Voilà, donc c'est le syndicat de la FSU, mais pour les lycées professionnels en fait. Alors je suis enseignant au lycée Louis Guillou de Rennes, donc je suis enseignant en maths sciences.
Elle accroît la précarité des jeunes chercheurs, elle augmente la part des financements privés à la fac.
Déjà, au niveau lycée professionnel, il y a toujours l'histoire d'arrêter cette réforme qui a supprimé énormément d'heures de cours pour les élèves. Il faut savoir qu'avant, les élèves, ils avaient à peu près 33 heures de cours. Maintenant, ils en ont plus que 28. Hein, voilà. Alors à côté, il y a plein de dispositifs qui ont été mis en place, mais qui ne marchent absolument pas, les chefs-d'œuvre, les co-interventions. Et donc, du coup, on est obligé de baisser les connaissances qu'on amène à nos élèves. Donc déjà, on voudrait revenir à des heures disciplinaires. Ça, c'est une chose. Enfin, en avoir suffisamment pour nos élèves. La deuxième, c'est d'arrêter toutes ces suppressions de postes remplacées par des heures sup, parce qu'on a plein de collègues qui ont envie de travailler aussi puis qui sont envoyés à Versailles-Créteil, mais il y a plein de suppressions de postes, donc ils ne peuvent plus rentrer. Les conditions de travail se dégradent du coup. Et puis quand on fait plein d'heures sup au lieu d'avoir des collègues titulaires, il y a moins d'adultes présents dans les établissements. Et puis on fait moins bien notre travail, hein, on est moins disponible pour les élèves. Voilà. Et puis enfin, il y a l'histoire des salaires, parce que depuis 5 ans, M. Blanquer prétend être le ministre du pouvoir d'achat, et depuis 5 ans, le gel du point d'indice, excusez-moi. Et donc du coup, nos salaires sont systématiquement bloqués. Et à un moment, la grande hypocrisie d'aller dire dans les médias « je serai le ministre du pouvoir d'achat » et à côté de rien donner, ça ne peut plus continuer, quoi.
Du coup, vous parlez de la revalorisation des salaires. Il y avait Jean-Michel Blanquer en septembre qui avait promis une enveloppe 40 millions d'euros, si je me souviens bien. Déjà, où est-ce que ça en est, cette revalorisation qui avait été promise et au final qui n'a pas l'air d'être là ?
C'est toujours la même chose avec Blanquer, c'est des promesses, mais on en voit rarement le bout. Alors, il y a la petite prime de 150 euros pour le matériel informatique. Je sais pas quel ordinateur on va s'acheter, peut-être un Minitel, mais voilà, 150 euros. Et puis un petit peu pour les profs en début de carrière. Mais sachant que c'est les tout premiers échelons et qu'on les passe très très vite, très très vite, ils vont arriver à des niveaux de salaire qui baissent. Enfin, voilà. Donc, à tel point qu'à un moment dans ces propositions, en gagnant de l'ancienneté, on risquait de perdre du salaire, quoi, dans certaines de ces grilles. Donc y a eu quelques clopinettes pour les tout débuts de carrière. La prime informatique, mais c'est tout. C'est limite de la provocation plus que de la revalorisation, quoi.
De ce que j'ai pu voir un peu à droite et à gauche, même pour les jeunes enseignants qui débutent en carrière, ils ont 7% de salaire en moins que le salaire moyen de l'OCDE pour un enseignant du même poste. La France a quand même énormément de retard à ce niveau-là.
Ah oui, énormément. On est très très loin des pays. On ne se compare plus à l'Allemagne ou des choses comme ça. Nous, on se compare à des pays certes riches, mais un peu moins que nous, comme éventuellement la Grèce ou des choses comme ça. On est dans ces eaux-là. Et comme on est en train de se faire dépasser par tous ces pays-là, bientôt, on devra se comparer avec les pays moins développés, à ce rythme-là, quoi.
Et puis cette revalorisation, de ce que j'ai compris, au final, elle n'est pas pour tout le monde. Genre, les AED n'y ont pas le droit.
En plus, il y a tous ces personnels qui sont un peu les oubliés, hein, franchement les oubliés. Il y a les AED, mais les AESH aussi, ceux qui aident les élèves handicapés, ils sont limite méprisés parce que c'est trois fois rien ce qu'ils touchent par rapport à toute leur mission, quoi. Donc effectivement, ouais, ils sont complètement oubliés, y compris pour la prime informatique d'ailleurs, dont les documentalistes aussi sont oubliés. Donc il y a en plus que les enseignants et encore pas tous, quoi.
Et quelles mesures urgentes devrait prendre le gouvernement pour essayer de faire en sorte que la situation s'améliore dans les lycées professionnels ?
Alors, dans les lycées professionnels, si on en revient vraiment aux lycées professionnels, c'est revenir à des heures disciplinaires plutôt que tous ces espèces de procédés dont on ne comprend pas le sens. Voilà. Et puis permettre aussi des dédoublements, c'est-à-dire que pour ça, il faut des heures postes. Voilà. Et puis bon, après, comme tout le monde, il y a la revalorisation aussi, mais surtout des heures postes, des titulaires en plus, ou des contractuels d'ailleurs, pour qu'on puisse faire des vrais dédoublements dans toutes les classes. Parce que quand on a une classe ombre en lycée professionnel, des fois c'est dur de faire passer tous les messages. Voilà. On a des élèves en difficulté, il faut pouvoir passer du temps avec chaque élève. Et passer du temps avec chaque élève, ça mérite des effectifs réduits, quoi.
Et comment ça se passe au niveau du protocole sanitaire dans les lycées professionnels ? Parce que j'ai vu que c'était une des revendications de cette manifestation aussi aujourd'hui. C'était le fait que le protocole sanitaire était, de par le manque de moyens, de budget, etc., n'était pas du tout conforme à votre sécurité et à celle des élèves.
Oui, puis comme il n'y a aucune règle, que ce soit au niveau de l'académie, au niveau ministériel, chacun fait comme il veut, enfin comme il peut. Et donc c'est vrai que la situation est très disparate en fonction des lycées professionnels. Certains lycées professionnels n'accueillent les élèves qu'une semaine sur deux ou des choses comme ça. D'autres les gardent tous au mépris de toutes les règles. Hein. Donc il y a des cantines où ça peut passer, d'autres où tout le monde est entassé. Donc là, il n'y a aucun cadrage et débrouillez-vous, quoi.
Donc les inégalités sont encore plus creusées en fonction des lycées.
Ah oui, les inégalités, que ce soit pour les enseignements et pour les conditions sanitaires, les deux.
L'enseignement dans le primaire n'est pas non plus épargné par le manque de moyens, la gelée des hausses des salaires et les protocoles sanitaires bâtis à la hâte. Les conditions de travail, en particulier par contre dans le secondaire, deviennent de plus en plus compliquées, notamment avec la suppression de postes, soit 1883 au total selon la FSU, qui ont été supprimés à la rentrée 2021 dans les lycées et les collèges. Malika, institutrice en primaire, s'exprime à mon micro sur les revendications de la mobilisation et la situation d'urgence à laquelle il demande au ministre de l'Éducation nationale de répondre.
Je m'appelle Malika, je suis à la CGT Éducation et je suis enseignante en primaire dans le premier degré.
Le tout sécuritaire de cette société-là.
On n'en veut pas.
Les jeunes dans la galère, les cols foutus en l'air.
Le tout sécuritaire
de cette société-là.
On n'en veut pas.
Alors aujourd'hui, on est particulièrement mobilisés autour des conditions sanitaires qui sont très complexes et qui mettent en place des choses dans les écoles difficiles. Et puis également des salaires et la revalorisation de notre métier qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et on n'oublie pas les précaires de l'éducation qui sont nombreux, les AESH, les AED dans les lycées et qui sont encore plus impactés que nous par la situation sanitaire.
Justement, vous parliez des AED, des AESH. Il y avait une revalorisation qui avait été prévue, on va dire, par Jean-Michel Blanquer avec 40 millions d'euros, au final qui ne touche pas grand monde. Et notamment, les AED ne font pas partie des personnes qui peuvent recevoir une revalorisation de leur salaire.
En fait, déjà, 40 000 euros pour l'éducation, ce n'est pas énorme, puisqu'on est un métier où il y a énormément de personnel et énormément de besoins. Et effectivement, les précaires sont complètement mis de côté, donc que ce soit les AED, les AESH ne toucheront rien de cette revalorisation. C'est une mini-revalorisation qui va toucher 30% à peu près des personnels, enfin des enseignants seulement. Et elle n'est pas énorme, hein, c'est une dizaine d'euros, donc ça, au final, c'est rien du tout.
Les conditions de travail aujourd'hui en école primaire, elles sont comment ?
On a eu une augmentation régulière du nombre d'élèves par classe suite aux coupes budgétaires et qui impacte évidemment nos conditions, puisque c'est, quand il y a plus d'élèves, c'est beaucoup plus fatigant, c'est beaucoup plus de bruit, donc pour nous, mais aussi pour les élèves. On a aussi la situation sanitaire qui a aggravé nos conditions de travail parce que on a une gestion des élèves qui est différente et on a un stress qui nous fatigue énormément. Et puis il y a donc maintenant qu'il y a une baisse un peu des élèves dans l'école, il n'y a pas de recrutement supplémentaire, donc ça n'améliore pas réellement les conditions. Puisqu'en fait, ce qu'ils appellent la priorité, c'est remettre quelques profs dans certaines classes, mais ça continue à faire augmenter le nombre d'élèves par classe dans les autres classes. Et particulièrement au lycée et collège, qui là, eux, vont voir leur nombre d'élèves augmenter l'année prochaine, alors que le nombre d'enseignants baisse.
Justement, il y a eu beaucoup de suppressions de postes cette année. Est-ce que le secteur des écoles primaires a été beaucoup impacté par ces suppressions de postes ?
Non, le primaire n'a pas été impacté par ces suppressions de postes. Donc nous, ça ira un peu mieux l'année prochaine. C'est les lycées et collèges qui sont fortement impactés, ce qui n'est pas logique, puisque leur nombre d'élèves augmente.
Les canons privés !
On n'en veut pas !
Enseignants formatés !
On n'en veut pas !
Formation sacrifiée !
On n'en veut pas !
Fonctionnaires méprisés !
On n'en veut pas !
Le bac assassiné !
On n'en veut pas !
En fait, le gouvernement, il aurait dû réfléchir dès le mois de mai l'année dernière à des mesures, et des mesures tout à fait évidentes. C'est le recrutement de beaucoup de personnel pour pouvoir dédoubler les classes, ou en tout cas les réduire le nombre d'enfants, que ça soit en primaire ou dans le second degré. Il ne l'a pas fait, du coup on se retrouve avec une situation où tous les élèves sont là et c'est complètement ingérable et c'est ridicule par rapport à notre situation sanitaire. Mais il peut encore le faire et ça c'est ce qu'on continue à demander au gouvernement. Il faut qu'il recrute du personnel, en prenant par exemple sur les listes complémentaires des concours des personnels ou même prenant quelques personnels en dehors, alors ça ne sera pas pareil que la classe mais ça peut se faire, pour pouvoir diminuer le nombre d'élèves par classe. De même, il peut, parce que les locaux vont bloquer, mais en fait, il y a des locaux dans les mairies qui peuvent être utilisés. Mais il faut qu'ils soient réquisitionnés. Donc, c'est c'est un choix du gouvernement qui pourrait être fait de réquisitionner les locaux pour dédoubler le nombre d'élèves.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a deux parts, du coup, tous ces biais ? Je parle du fait que le budget soit un peu grévé, qu'il n'y ait pas de revalorisation de salaire, que les conditions de travail soient compliquées. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a moins de personnes à vouloir faire un métier qui devient de plus en plus compliqué ?
Alors c'est pas qu'un sentiment, en fait on le voit sur le nombre de personnes qui postulent au concours, il baisse chaque année, donc il y a moins de personnes qui veulent. Et en plus de ça, on a un nombre de personnes qui démissionnent sur les premières années qui augmente chaque année. Alors ça augmente aussi sur les autres années, mais particulièrement sur les premières. C'est-à-dire que les personnes pensent que ça va aller, ils arrivent, ils passent le concours, et en fait ils lâchent parce qu'ils se rendent compte que c'est trop compliqué, trop difficile, trop de fatigue pour un salaire qui n'est pas suffisant.
Si jamais le gouvernement ne donne pas de réponse rapidement, est-ce que vous savez quelles mobilisations, vous, avec la CGT, vont être mises en place prochainement ?
Bah, on a déjà une première chose qu'on fera, hein, c'est que le 4 février, pardon, il y a une mobilisation interprofessionnelle, donc pas que pour l'éducation, mais évidemment la CGT Éducation y appellera à nouveau. puisqu'on se doute bien qu'il n'y aura rien de mis en place. Et on sera là dans la rue en tant que, avec le reste de l'Interpro, mais aussi les enseignants, pour réclamer à nouveau des conditions de travail décentes dans les écoles et les collèges et les lycées.
Le personnel enseignant n'était pas le seul à se mobiliser. Plusieurs syndicats étudiants étaient notamment présents pour s'exprimer sur le mal-être des étudiants fantômes. Et ma collègue Héloïse reviendra tout à l'heure sur leurs revendications.